Chapitre 39 à 45. Joseph en Égypte. Les actions des hommes et les desseins de Dieu. En lisant ces chapitres, on découvre un enchaînement remarquable d'événements providentiels tendant tous vers un grand but principal, l'exaltation de Joseph. On discerne en même temps divers buts subordonnés. Dieu appela la famine sur la terre. Il brisa tout le bâton du pain, et il envoya un homme devant eux. Joseph fut vendu pour être esclave. On lui serra les pieds dans les ceps, son âme entra dans les fers, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel l'éprouva. Le roi envoya, et il le mit en liberté. Le dominateur des peuples le relâcha. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur sur toutes ses possessions, pour lier ses princes à son plaisir et pour rendre sages ses anciens. Psaume 105, versets 16 à 22. Dieu veut exalter celui que les hommes ont rejeté et leur faire sentir le péché qu'ils ont commis en le rejetant. Et tout cela s'accomplit d'une manière admirable. Les circonstances qui paraissent les plus opposées à ce but servent en fait à l'accomplissement des desseins de Dieu. Satan, au chapitre 39, se sert de la femme de Potiphar pour mettre Joseph en prison, et au chapitre 40, de la négligence et de l'ingratitude du grand échanson pour le faire rester dans la prison. Mais Dieu est derrière la scène, dirigeant de sa main tous les ressorts de ce vaste enchaînement de circonstances, et au temps convenable, il amène à la gloire publique l'homme de ses conseils. C'est la prérogative de Dieu d'être toujours au-dessus de tout. Il peut faire servir toute chose à l'accomplissement de ses desseins. Heureux sommes-nous de savoir qu'il dispose en souverain de tous les instruments, anges, hommes, démons. Tout cela nous est présenté d'une manière remarquable dans les chapitres que nous méditons. Dieu visite la maison d'un capitaine païen, celle d'un roi païen. Bien plus, il visite ce roi sur son lit et fait concourir même ses songes à l'accomplissement de ses conseils souverains. Et ce ne sont pas seulement les individus et leurs circonstances que Dieu emploie ainsi, mais encore l'Égypte et tous les pays environnants. La terre entière est préparée, par la main de Dieu, pour être la scène de la manifestation de la gloire et de la grandeur de Joseph, de celui qui a été mis à part de ses frères. Deutéronome 33, verset 16. Telles sont les voies de Dieu. Arrêtez-vous un instant à la prison du chef des gardes. Voyez là un homme dans les fers, psaume 105, verset 18, injustement accusé d'un crime, rejeté et méprisé de la société, puis voyez-le élevé en un moment à la plus haute dignité. Qui pourrait nier que Dieu ne soit dans tout cela? Et le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, personne n'est intelligent et sage comme toi. Toi, tu seras sur ma maison, et tout mon peuple se dirigera d'après ton commandement. Seulement, quant au trône, je serai plus grand que toi. » Et le pharaon dit à Joseph, « Vois, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Et le pharaon ôta son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit de vêtements de byssus et mit un collier d'or à son cou. Et il le fit monter sur le second char qui était à lui, et on criait devant lui « Abrek !» Et il l'établit sur tout le pays d'Égypte. Et le pharaon dit à Joseph « Moi, je suis le pharaon. Sans toi, nul ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Chapitre 41, versets 39 à 44. Joseph, merveilleux type de Christ. Les différentes circonstances par lesquelles passe Joseph sont pour nous un type frappant des souffrances et de la gloire du Seigneur Jésus. Joseph est tiré de la fosse et de la prison dans lesquelles la jalousie de ses frères et la fausse accusation de son maître l'avaient mis pour être établi gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Et il devient le canal de la bénédiction pour Israël ainsi que pour toute la terre. Aucun type de Christ n'est plus lumineux. Un homme est amené jusque dans le lieu de la mort par la main de l'homme, puis délivré par la main de Dieu et élevé en dignité et en gloire. Homme israélite. Écoutez ces paroles. Jésus le Nazaréen, homme approuvé de Dieu auprès de vous par les miracles et les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous-même vous le savez, ayant été livré par le conseil défini et par la préconnaissance de Dieu, lui, vous l'avez cloué à une croix et vous l'avez fait périr par la main d'homme zinique, lequel Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, puisqu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Acte 2, versets 22 à 24. Mais, outre les points que nous venons de signaler, il y a dans l'histoire de Joseph deux autres événements qui rendent le type remarquablement complet. Son mariage avec une femme étrangère au chapitre 41 et son entrevue avec ses frères au chapitre 45. Les étapes de sa vie se succèdent dans l'ordre suivant. Joseph se présente à ses frères comme envoyé par son père. Ils le rejettent, et pour ce qu'il en est d'eux, ils le mènent à la mort. Dieu l'en retire et l'élève à la plus haute dignité. Dans son élévation, il épouse une femme, et quand ses frères, selon la chair, prosternés devant lui, sont complètement humiliés, il se fait connaître à eux, il les tranquillise et les introduit dans la bénédiction. Puis il devient le canal de la bénédiction pour eux et pour le monde entier. Une épouse, compagne de sa gloire. La femme étrangère que reçoit Joseph est la figure de l'Église. Christ se présente aux Juifs et, rejeté par eux, il prend place dans les cieux, d'où il envoie le Saint-Esprit pour rassembler l'Église, composée de Juifs et de gentils, destinée à être unie à lui dans la gloire céleste. Nous avons déjà parlé de l'Église en nous occupant du chapitre 24. Nous trouvons ici quelques détails qui touchent au même sujet et sur lesquels nous nous arrêterons un moment. Si la femme de Moïse représente l'Église comme unie à Christ dans sa réjection, la femme de Joseph figure l'Église comme unie à Christ dans sa gloire. Étant une avec lui, elle avait part à tout ce qui était à lui. De plus, par sa proximité et son intimité avec lui, elle occupait une place auprès de lui qu'elle seule connaissait. Il en est de même de l'Assemblée, épouse de l'agneau. Elle est unie à Christ pour participer à sa réjection et à sa gloire. C'est la position de Christ qui donne son caractère à la position de l'Église, et c'est cette position qui devrait toujours caractériser nos pensées et notre marche. Nous sommes unis à Christ, élevés dans la gloire. Notre centre de rassemblement, c'est Christ. Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi-même. Jean 12, verset 32. Ce principe est d'une importance pratique bien plus grande qu'il ne paraît au premier abord. Le dessein de Satan est toujours de nous faire rester en deçà du but de Dieu pour nous. Bien des gens pensent que c'est le sang qui constitue le centre de l'unité des saints. Le sang infiniment précieux de Christ est ce qui nous place individuellement comme adorateurs en la présence de Dieu. C'est le sang qui constitue le divin fondement de notre communion avec Dieu. Mais quand il est question de notre centre d'unité comme assemblée ou comme Église, il ne faut pas perdre de vue que le Saint-Esprit nous rassemble autour de la personne d'un Christ crucifié et glorifié. Et cette grande vérité imprime à notre rassemblement, comme chrétien, son saint et glorieux caractère. Nous nous réunissons autour d'un chef ressuscité et glorifié dans les cieux. Et il est très important de peser les conséquences pratiques qui découlent de cette vérité. Si Christ était sur la terre, nous serions rassemblés autour de lui ici-bas. Mais puisqu'il est caché maintenant dans les cieux, l'assemblée tire son caractère de la position de son chef là-haut. C'est pourquoi Christ pouvait dire « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et encore, je me sanctifie moi-même pour eux. » afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jean 17, versets 16 et 19. Pareillement, l'apôtre Pierre écrit « Duquel vous approchant comme d'une pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse auprès de Dieu, vous-même aussi, comme des pierres vivantes, êtes édifiés une maison spirituelle, une sainte sacrificature, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. » 1 Pierre 2, versets 4 et 5. Si nous sommes réunis autour de Christ, il faut que nous soyons réunis autour de lui tel qu'il est et là où il est. et plus nous entrerons par l'enseignement de l'esprit dans l'intelligence de ces choses, mieux aussi nous comprendrons quelle est la marche qui nous convient. Un peu plus loin, nous lisons, « Et avant que vînt l'année de la famine, il naquit à Joseph deux fils. » Chapitre 41, verset 50. Un temps d'épreuve devait arriver. Mais auparavant, le fruit de son union paraît. Les enfants que Dieu lui avait donnés sont appelés à l'existence. Ainsi en sera-t-il quant à l'Église. Tous ceux qui la composent seront appelés, le corps entier sera complété et réuni à la tête dans les cieux, avant la grande tribulation qui viendra sur toute la terre. Matthieu 24, verset 21. Restauration des frères de Joseph. Jetons maintenant un regard sur l'entrevue de Joseph avec ses frères. Cette entrevue présente plus d'un trait de ressemblance avec l'histoire d'Israël au dernier jour. Durant la période pendant laquelle Joseph fut caché à ses frères, ceux-ci furent appelés à passer par une profonde épreuve et par des exercices de conscience des plus douloureux. Dans l'un de ces moments d'affliction, ils sont amenés à dire « Certainement, nous sommes coupables à l'égard de notre frère, car nous avons vu la détresse de son âme quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons pas écouté. C'est pourquoi cette détresse est venue sur nous. » Et Ruben leur répondit, disant « Ne vous ai-je pas parlé, disant « Ne péchez pas contre l'enfant. » Mais vous n'avez pas écouté. Et aussi, voici, son sang est redemandé. » Chapitre 42, versets 21 et 22. Plus loin, nous lisons « Et Judas dit, « Que dirons-nous à mon Seigneur? Comment parlerons-nous? Et comment nous justifierons-nous? Dieu a trouvé l'iniquité de tes serviteurs. » Chapitre 44, verset 16. Dieu seul peut produire le sentiment réel du péché et amener un homme à la conscience de son état devant Dieu. L'homme poursuit insouciant sa carrière de péché jusqu'à ce que les flèches du Tout-Puissant transpercent sa conscience. Alors, il faut qu'il passe par ces douloureux exercices du cœur et de la conscience qui ne peuvent trouver de soulagement que dans les richesses de l'amour rédempteur. Les frères de Joseph n'avaient aucune idée de tout ce qui devait découler pour eux de leur conduite envers lui lorsqu'ils l'ont vendu aux Ismaélites. Mais maintenant, Dieu touche leur cœur et exerce leur conscience. Les années s'étaient succédées et ils avaient pu s'imaginer que tout allait bien et que le passé était oublié. Mais les 7 années d'abondance et les 7 années de famine arrivent. De qui proviennent-elles? À quoi doivent-elles servir? Merveilleuse providence! Sagesse incompréhensible de Dieu. La famine se fait sentir dans le pays de Canaan, et la faim amène les coupables aux pieds de celui qu'ils ont outragé. Leur iniquité les a trouvés, mais c'est en présence de Joseph, bienheureuse position. Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, et il cria « Faites sortir tout le monde d'auprès de moi ». Et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Chapitre 45, verset 1. Nul étranger n'est admis à être témoin de cette scène, car quel étranger aurait pu la comprendre ou l'apprécier? Nous pouvons voir ici en quelque sorte une vraie conviction du péché en présence de la grâce divine. Et quand cette conviction et cette grâce se rencontrent, toute question est bientôt résolue. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés, et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de reste sur la terre et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. Et maintenant, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Chapitre 45, versets 4 à 8. C'est bien ici la grâce, mettant la conscience convaincue de péché en parfait repos. Les frères de Joseph s'étant déjà jugés, Joseph n'a plus qu'à répandre le baume dans leur cœur brisé. Tout ceci est un précieux type de la manière dont Dieu agira à l'égard d'Israël dans les derniers jours. Et ils regarderont vers moi celui qu'ils auront percé, et ils se lamenteront sur lui. Alors ils feront l'expérience de la réalité de la grâce divine et de la valeur de cette source, ouverte pour la maison de David et pour les habitants de Jérusalem, pour le péché et pour l'impureté. Zacharie 12, verset 10 et 13, verset 1. Au chapitre 3 des Actes, nous voyons le Saint-Esprit chercher à produire par la voix de Pierre cette conviction divine dans la conscience des Juifs. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous, vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous, vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous, nous sommes témoins. Versets 13 à 15. Ces paroles avaient pour but de faire sortir du cœur et de la bouche des auditeurs la confession que firent les frères de Joseph. Certainement, nous sommes coupables. Ensuite vient la grâce. Et maintenant, frères, je sais que vous l'avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait prédit par la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et vous convertissez, pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. Versets 17 à 19. Nous voyons ici que, bien que les Juifs aient laissé libre cours à l'inimitié de leur cœur en faisant mourir Jésus, comme avaient fait les frères de Joseph dans leur conduite envers lui, cependant, la grâce de Dieu envers chacun d'eux apparaît en ce qu'il est affirmé que tout a été décrété et prédit de Dieu pour leur bénédiction. C'est la grâce parfaite, grâce qui surpasse toutes nos pensées. Mais pour en jouir, il faut que la vérité de Dieu ait produit dans la conscience une conviction de péché réelle. Ceux qui pouvaient dire « Certainement, nous sommes coupables » pouvaient aussi comprendre les paroles de la grâce. Ce n'est pas vous, mais c'est Dieu. Seule l'âme qui s'est jugée elle-même est en état de comprendre et d'apprécier le pardon de Dieu.